Bonjour à tous. Je ne sais pas, c'est peut-être la troisième, la quatrième fois que je suis au milieu de vous. Et c'est toujours un plaisir d'être là. Avant de commencer, je voudrais vous transmettre les salutations de l'église de Bussy. Et en particulier Anne-Marie, tu as eu toutes les salutations. Samuel et les autres m'ont dit, surtout tu dis bonjour à Anne-Marie, parce que c'est une ancienne de l'église de Bussy. Ok. Ça, c'est un sujet que j'ai à cœur depuis un moment, quelques semaines déjà. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Merci. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je voudrais dire à ma sœur qui a témoigné tout à l'heure que parfois elle a l'impression que ce qu'on a fait n'est pas important. C'est comme une goutte d'eau, n'est-ce pas, dans la mer. Mais en fait, chaque goutte d'eau est importante parce que la mer n'est faite que de gouttes d'eau. Et quand on ajoute une goutte d'eau à une goutte d'eau, finalement, on a des étendues d'eau. Et la goutte d'eau, là, tu as l'impression que c'est tout petit, ça ne vaut rien. Le Seigneur le prend, la prend, cette goutte d'eau, et en fait quelque chose de merveilleux pour le salut de quelques-uns, pour venir en aide aux enfants, etc. Donc, ce que notre main trouve à faire, faisons-le avec joie, avec sérieux, avec enthousiasme, avec tout notre cœur, parce que cette chose-là que nous faisons dans la maison du Seigneur, pour l'œuvre du Seigneur, glorifie Dieu quand c'est fait avec notre cœur. Je sais qu'il fait chaud. On va faire l'effort de rester réveillé, n'est-ce pas? Le passage que nous avons lu, pour mieux le comprendre, je pense qu'il est intéressant de faire un peu, de reculer quelques siècles avant. Parce qu'on ne comprend pas très bien ce qui se passe dans ce passage lorsque on voit Saül qui dit à Samuel, le prophète, Samuel qui dit à Saül, le roi. On se demande qu'est-ce qui se passe en fait. La réalité, c'est que lorsque le peuple d'Israël sort du pays d'Égypte, n'est-ce pas? Il traverse la mer Rouge et il s'engage sur le chemin qui les amène vers, n'est-ce pas, la terre promise. Et là, il se trouve dans un endroit qui s'appelle Réphidim. Ils sont là. Et pendant qu'ils sont là, le peuple est fatigué, il est angoissé, il est assoiffé, c'est pas évident. Et à ce moment-là, il y a Amalek qui sort et qui attaque le peuple. Ils lui font la guerre. Si vous aimez la Bible, que vous avez l'habitude de la lire, vous vous rappelez de ce passage qui vous dit, lorsque les bras de Moïse étaient élevés, n'est-ce pas, Israël était vainqueur, et lorsque ses bras étaient fatigués, Amalek était vainqueur, n'est-ce pas? Il a fallu que Aaron et Hur viennent lui saisir les bras pour qu'il reste, n'est-ce pas, les bras au-dessus de sa tête, et pour que Israël remporte la bataille. Donc, c'est de cet Amalek-là dont il s'agit. N'est-ce pas? Ils sont venus contre toute attente et ils ont attaqué le peuple d'Israël. Alors, après cette bataille-là, voilà ce que le Seigneur va dire à Moïse. Exode 17, verset 14 à 15. Exode 17, verset 14 à 15. Il va lui dire, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. Moïse construisit un autel et l'appela l'Éternel, mon étendard, parce que c'est lui qui leur avait donné la victoire. Il dit, parce que les Amalécites se sont attaqués au trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre eux de génération en génération. Guerre de l'Éternel, parce que c'est Dieu lui-même qui a décidé cette guerre-là. Et lorsque Moïse va être sur le point de passer la main à Josué, il va lui rappeler cela dans Deutéronome 25, 17 à 19, Deutéronome 25, 17 à 19, il lui dit, souviens-toi de ce que t'a fait Amalek sur le chemin de votre sortie d'Égypte, la façon dont il est venu à ta rencontre sur ton parcours et sans aucune crainte de Dieu, est tombé par derrière sur toi, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais toi-même fatigué et épuisé. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura délivré de tous les ennemis qui t'entourent et t'accordera du repos dans le pays qu'il te donne en héritage et en propriété, tu effaceras le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. Ne l'oublie pas. Ça, c'est un commandement de Dieu et il le réitère. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important, quelque chose à laquelle le Seigneur attache une grande importance. Voilà qu'Israël arrive à la terre promise. N'est-ce pas? Josué fait la guerre partout, il installe le peuple. Et à un moment donné, Israël dit à Dieu, donne-nous un roi. Dieu leur donne un roi. Et ce roi, c'est Saül. Et le texte que nous avons lu, en fait, commence par une référence un peu anecdotique. Lorsque tu étais petit à tes yeux, alors que tu étais petit à tes propres yeux. Pourquoi est-ce que Samuel dit ça à Saül? En réalité, lorsque il a fallu élire un roi, Saül, en fait, s'est caché. On a cherché Saül partout, il s'était caché. Caché derrière les bagages. On a dû aller le chercher parce que le Seigneur a dit non, il est là, il est caché derrière les bagages, allez le chercher. Et on est allé le chercher. Cette histoire, vous la trouverez dans 1 Samuel au chapitre 10. C'est très amusant. Parce que Saül se sentait petit. Il estimait qu'il n'avait pas la carrure, la capacité, qu'il n'était pas à la hauteur pour accomplir, n'est-ce pas, le dessein de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de positif. Parce que quand on vient à l'œuvre de Dieu en se disant, oh, c'est moi le super, je vais tout renverser, non. On est à peu près sûr d'une chose, on va se rater. Saül est venu en reconnaissant sa petitesse. Il était petit à ses propres yeux. Mais ce qui est un vrai contraste dans cette histoire, c'est que Saül, en fait, était très grand. Physiquement, il dépassait tous les Israélites d'une tête. C'est-à-dire que quand il se mettait debout, on ne voyait que lui. Et sur le plan physique, il avait une grande carrure. C'était un homme imposant, Saül. Mais à ses propres yeux, il était petit. Je crois que nous aussi, à nos propres yeux, nous sommes petits lorsque nous prenons conscience du fait que Dieu est grand, du fait que Dieu est saint, du fait que Dieu est pur. Et lorsqu'il nous dit, viens, suis-moi, je veux faire de toi mon enfant, nous nous disons, mais Seigneur, comment vais-je faire dans ta pureté, dans ta sainteté, dans ta grandeur, dans ta majesté? Moi qui suis pécheur, on se sent tout petit. Et c'est dans cette petitesse-là que le Seigneur vient nous chercher, chacun d'entre nous. Il vient nous prendre dans notre petitesse et, voyez-vous, il nous fait le plus grand et le plus beau des cadeaux qu'il y a. Parce que quand le Seigneur vient me prendre dans ma petitesse, qu'est-ce qu'il fait? Il me lave, il me purifie. Il me justifie au moyen du sang de Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Et lorsque je suis justifié, vous savez quoi? Le Seigneur m'adopte. Vous êtes des enfants adoptés du Seigneur si vous avez donné vos cœurs à Jésus-Christ. Alléluia! Vous êtes des enfants adoptés du Seigneur. Il dit ceci dans Éphésiens au chapitre 2, le verset 19. Ainsi donc, c'est-à-dire, puisqu'il t'a pris, puisqu'il t'a justifié, puisqu'il t'a purifié, puisqu'il a enlevé ton péché. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Dis à ton voisin, tu es membre de la famille de Dieu. Dis-le, lui, à ton voisin. Tu es membre de la famille de Dieu. Je ne sais pas si cela résonne dans vos cœurs. Mais c'est un privilège extraordinaire. Je suis membre de la famille de Dieu. Je suis fils de Dieu. J'habite la maison de Dieu. Et Dieu habite en moi par son esprit. Parce que son esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Alléluia! Oh, si vous êtes dans ce lieu-là ce soir, cet après-midi, et que vous ne connaissez pas le Seigneur, je voudrais vous dire une chose. La porte de la maison de Dieu n'est pas fermée. Parce que le Seigneur dit, je ne mets pas dehors celui qui vient à moi. Alors si tu reconnais ta petitesse, le fait que tu es un pécheur et que tu as besoin de la grâce de Dieu, et que tu viennes à Jésus-Christ ce soir même et tu lui dis, Seigneur, je te donne ma vie. Alors, il te purifie. Alors, il te sanctifie. Alors, il te justifie. Et alors, il t'adopte et tu deviens enfant de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cela. Enfant de Dieu, du Dieu très haut, du Dieu très saint. Je l'ai dit, Saül est un roi qui a été choisi par Dieu. Il a été choisi pour accomplir la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu dans cette histoire, c'est quoi? C'est « Va maintenant ». 1 Samuel 15, verset 3. « Va maintenant frapper les Amalécites, vouer à la destruction tout ce qui leur appartient. Tu ne les épargneras pas et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » C'est-à-dire que le Seigneur a dit, va et extermine Amalek. Tu ne laisses absolument rien. Tu y vas et tu zigouilles tout le monde. Cet ordre-là est violent. Vous êtes d'accord avec moi? Vous vous rappelez la sortie d'Égypte? En fait, c'est ça. C'est la continuation, c'est la continuité de cela. Dieu a horreur du péché. Dieu n'aime pas que l'on s'oppose à lui. Il a horreur de cela, que l'on résiste à sa parole, qu'on lui fasse la guerre quelque part comme Amalek l'a fait. Alors l'ordre de Dieu est violent, oui, parce que Dieu a horreur du péché. Et ceci nous donne de comprendre jusqu'à quel point Dieu n'aime pas le péché. Pas seulement le péché d'Amalek, mais le péché dans nos vies. Dieu déteste le péché dans nos vies. Et quand il le prouve ici, en montrant l'extrême violence du commandement qu'il donne. Est-ce que vous avez conscience que votre péché est désagréable à Dieu? Est-ce que vous avez conscience que Dieu ne supporte pas l'espace de péché que tu pourrais laisser dans ta vie? Il faudrait que nous prenions conscience de ça. Parce que le prix qu'il a payé pour que nous soyons appelés enfants de Dieu est énorme. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mourant sur une croix. Voyez-vous, Saül est un roi qui a été choisi par Dieu pour accomplir ses desseins. Mais au verset 26, on lit quelque chose. « Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi comme roi. » C'est un roi qui a été choisi par Dieu, mais c'est aussi un roi qui a été déchu par Dieu lui-même. Vous savez, parfois dans les révolutions aujourd'hui, c'est le peuple qui décide et qui destitue, n'est-ce pas, les despotes et les rois et les chefs d'État, etc. N'est-ce pas? Mais là, c'est Dieu lui-même qui destitue Saül. Mais pourquoi le fait-il? Pourquoi Dieu qui a installé Saül le destitue? Est-ce qu'il s'est trompé, le Seigneur? Non. Il le destitue pourquoi? Parce qu'au verset 26, il nous est dit, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Saül a rejeté la parole de l'Éternel et par conséquent, il ne peut plus être en communion avec Dieu et par conséquent, Dieu le rejette. C'est une sentence sans appel, comme on dit. Il n'y a pas moyen là de revenir en arrière. Entre le roi qui est intronisé par Dieu et le roi qui est destitué par Dieu, que s'est-il donc passé? Pourquoi Saül a-t-il été ainsi rejeté par Dieu? Est-ce que Saül avait décidé tout simplement, Dieu a dit, va détruire Amalek, mais bon, je ne vais pas le faire. Non. Il a commencé à le faire. Il est allé, il a écouté la parole de Dieu. Il est allé, il a fait la guerre à Amalek. Il les a presque tous détruits, presque. Au verset 20, il est dit ceci. Et c'est Saül qui parle. Il dit, J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. Jusque-là, ça va. J'ai écouté, j'ai suivi. Ensuite, il a ajouté, j'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. À partir de là, il y a un problème. J'ai amené Agag. Le Seigneur ne t'a pas dit d'amener Agag. Il a dit de le vouer par interdit là où il était. Ensuite, il ajoute, mais, le verset 21, mais le peuple a pris sur lui le butin, non, le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Ça paraît quelque chose de bien. Il a pris les brebis pour les sacrifier. Simplement, il y a un problème. Il s'est constitué un butin de guerre. Dieu lui a dit, tu ne les épargneras pas. Qu'est-ce que lui fait? Il fait quelque chose à sa sauce. On verra tout à l'heure pourquoi. Le problème, il est là. L'obéissance à Dieu n'est pas un supermarché. Vous savez, quand vous allez au supermarché, je vois qu'il y a beaucoup de sœurs là, donc elles comprennent mieux ce que je dis. C'est pas que les gars ne vont pas au supermarché. Hein. Quand, oh, je vous rassure, c'est moi qui fais les courses chez moi. ma femme n'aime pas trop les supermarchés. Donc, quand on va au supermarché, on a le choix. Je prends ceci et, pauvre, sur plusieurs choses, je choisis ce qui m'arrange et je laisse ce qui ne m'arrange pas. Il n'en est pas ainsi. Il n'en est pas ainsi de l'obéissance à Dieu. Quand on est dans le rayon obéissance à Dieu, on prend tout. On ne prend pas ce qui nous arrange. On prend tout. Le Seigneur a dit, obéissance à Dieu, je prends tout le rayon. Même si ça m'arrange pas, je le prends. Malheureusement, c'est pas ce qu'a fait Saül. Dans le psaume 119, au verset 4, il y a quelque chose qui est dit. Tu as promulgué tes décrets. En parlant de Dieu, il est dit, tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin. Pas seulement pour qu'on les respecte, mais pour qu'on les respecte avec soin. Et ce n'est pas ce qu'a fait Saül. Il les a respectés à moitié. Il est allé jusqu'à la destruction des Amalécites, mais il a épargné Agag et il a pris pour lui un butin. Mais, Seigneur, t'as pas dit ça. En faisant ça, il s'est disqualifié. Ne prenons pas la liberté. Ne prenons pas de liberté avec l'obéissance à Dieu. Dieu ne supporte pas que nous prenions des libertés par rapport à sa parole. Parce que vous savez, il n'y aura jamais de meilleur plan pour nos vies que celui que Dieu a. Il n'y aura jamais de meilleur chemin que celui que Dieu nous a clairement tracé. Il y a des moments où Dieu ne trace pas clairement un chemin. Il dit à Abraham, lève-toi et va, je te montrerai le chemin. Il lui a pas dit, tourne d'abord à gauche, après au troisième virage, tu prendras au carrefour, troisième sortie. Non. Il a dit, va, je te montrerai. Et Abraham est parti. Ça, c'est la foi. Mais quand le Seigneur dit, voilà ce que je veux que tu fasses. Et il te le dit clairement, surtout ne dévie pas. Parce qu'il n'y a pas de meilleure chose que celle que le Seigneur aura dit. L'obéissance à Dieu n'est pas un super marché. Voyez-vous, quand je me comporte par rapport à l'obéissance comme dans un supermarché, la Bible dit que je résiste à Dieu. La Bible dit que je n'écoute pas Dieu. La Bible dit que je suis désapprouvé de Dieu. Oui. Quand vous faites quelque chose à 50%, la volonté de Dieu à 50%, mais vous êtes désapprouvé de Dieu. Lorsque Samuel revient et trouve Saül, il y a comme un cri de colère. Il lui dit, pourquoi n'as-tu pas écouté l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce que Dieu désapprouve? Parce que, voyez-vous, Samuel connaissait la conséquence d'une désobéissance à Dieu. Il lui dit que la désobéissance équivalent à une révolte, à une rébellion. Quand je n'obéis pas à Dieu, eh ben, je suis un révolté, je suis un rebelle contre Dieu. Même si j'ai fait 50%. Et il lui dit, la révolte et la rébellion sont aussi coupables que la divination, c'est-à-dire que la sorcellerie. Parce que le mot qui est traduit par divination ici, kesem, c'est aussi le même mot qui signifie sorcellerie. On aurait pu traduire, la révolte est aussi coupable que la sorcellerie. Vous vous rendez compte? Vous n'êtes pas sorcier? Ah non, je ne suis pas sorcier, mais si. Le Seigneur estime que vous faites la sorcellerie. Vous êtes puni de la même manière qu'un sorcier. Vous êtes aussi coupable qu'un sorcier quand vous ne faites pas complètement la volonté de Dieu. Alors, mes frères, mes sœurs, le Seigneur nous invite cet après-midi à être des hommes et des femmes intègres et totalement soumis à sa parole si nous voulons être approuvés. Est-ce que nous voulons être approuvés de Dieu? Est-ce que vous voulez être approuvés de Dieu? Alors, soyons intègres et totalement soumis. Je me suis posé la question, mais quelles sont les raisons pour lesquelles Saül a désobéi à Dieu? Pourquoi l'a-t-il fait? On peut se poser la question. Au verset 24, il dit ceci à Samuel, il lui dit, j'ai péché car j'ai enfreint l'ordre de l'Éternel. Il est conscient d'avoir enfreint l'ordre de l'Éternel et tes paroles. Il dit, j'ai eu peur du peuple et je l'ai écouté. J'ai eu peur du peuple et je l'ai écouté. Deux choses. Il a peur du peuple et il écoute autre chose que ce que Dieu lui dit. Voyez-vous? La peur des hommes. Voilà un piège. La peur des hommes. Voilà pourquoi Saül n'a pas obéi à Dieu. Parce qu'il a eu peur des soldats qui étaient avec lui. Les soldats voulaient absolument prendre une partie de brebis, rentrer à la maison. Ils se sont battus, ils ont gagné la bataille. Mais il faut bien qu'ils aient un butin. Mais non. Le Seigneur avait donné un ordre clair. Pas de butin. Vous vouez tout par interdit. Quand nous connaissons ce que Dieu dit, appliquons-le. Même si cela va nous coûter parfois des conflits avec ceux que nous aimons, vous savez. Quand Dieu dit, tu ne voleras point, et que tu voles, et bien quelqu'un que tu as à côté de toi a envie de voler, de dérober quelque chose, il est de ta responsabilité parce que tu sais exactement ce que Dieu veut pour lui dire, non, c'est pas ce que Dieu dit. C'est notre responsabilité de faire appliquer ou d'appliquer ce que Dieu dit, lorsque nous en avons le pouvoir et l'autorité. La deuxième chose qui a fait que Saül pêche ou désobéit à Dieu est révélée au verset 30 du chapitre que nous avons lu. Il dira ceci, « J'ai péché, maintenant honore-moi devant les anciens de mon peuple et devant Israël. » Pour lui, être honoré était plus important que de faire la volonté de Dieu. Être honoré devant son peuple était plus important que d'obéir à Dieu. Je trouve que la recherche de la gloire, la recherche de la reconnaissance, la recherche du pouvoir, voilà une des choses qui ont amené Saül à se détourner de Dieu. Et je trouve ça pathétique. Pathétique parce que voilà un homme à qui on vient de dire « Dieu t'a rejeté comme roi ». Je crois qu'il devrait être abattu. Hein? Si on vient de dire j'espère qu'il n'y a personne ici qui passe les examens. Non. Bon, si on vient de dire « Tu as été reçu au bac ». Mais parce que tu as triché, c'est terminé, on te l'enlève. Oh! Je crois pas que tu vas dire, tant pis, je vais quand même me réjouir. Non, tu vas être abattu, triste, tu vas peut-être même pleurer. Mais non, pour Saül, ce qui l'intéresse, c'est, il faut que le peuple me voie et que je sois honoré. C'est pathétique. Un homme à qui on vient de signifier, pour la deuxième fois, parce que c'est la deuxième fois en réalité, on vient de lui signifier qu'il est déchu de sa royauté par la main de Dieu. Et la seule chose qui l'intéresse, c'est « Honore-moi devant le peuple ». La seule chose qui l'intéresse, c'est à dire à sa mère, « Viens adorer avec moi ». Mais quelle adoration! L'adoration de quelqu'un qui a été rejeté de Dieu n'est rien d'autre qu'une mascarade, c'est-à-dire quelque chose d'hypocrite, une scène trompeuse, une mise en scène trompeuse. Parce que si Dieu te rejette, ton adoration lui est désagréable. Vous savez ça? Quand Dieu te rejette, quand Dieu rejette, non seulement notre adoration lui est désagréable, mais il se détourne quand on veut l'adorer. Dans Amos au chapitre 5, les versets 22 à 23, il est dit ceci. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir et les veaux engraissés que vous offrez en sacrifice de communion, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que le droit jaillisse comme un cours d'eau et la justice comme un torrent qui n'arrête jamais de couler. Le droit et la justice. Voilà ce que Dieu nous réclame. Ce n'est pas une adoration, une louange qu'il n'agrée pas à cause du péché. Ce qu'il veut, c'est que nous marchions dans la droiture, dans la justice, dans la vérité, dans l'obéissance. Et alors, je voudrais poser la question ce soir. Quelles sont les raisons de nos désobéissances à Dieu? Parce que nous pouvons dire que Saül a désobéi, mais nous aussi, nous avons des désobéissances. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, quelles sont les raisons de mes désobéissances? Quelles sont les raisons de tes désobéissances à Dieu? Oh, tu dois le connaître un peu. J'en énumère quelques-unes quand même. Est-ce que c'est la peur des hommes? Parce que voyez-vous, la peur des hommes souvent se manifeste par nos silences coupables. Nos silences coupables. Je vois mon frère qui est en train de se noyer dans le péché et je me tais parce que je ne veux pas froisser mon frère ou ma sœur. Nos péchés, nos silences coupables. Parce que j'ai peur d'être mal vu ou j'ai peur d'être peut-être en conflit ou bien en mauvais terme pour un temps. Ça, c'est une manifestation de la peur des hommes. Mais écoutez ce que Dieu dit dans Éphésiens 5, à partir du verset 8. Il dit, autrefois, c'est-à-dire quand vous marchiez loin de moi, autrefois vous étiez ténèbres. Et maintenant, c'est-à-dire maintenant que vous êtes venus à moi, que je vous ai transformé, que je vous ai adopté, que vous êtes mes enfants, maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. C'est notre responsabilité, vous savez. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Quelle que soit la personne qui est devant vous, devant nous, il nous appartient de dénoncer les œuvres des ténèbres. Vous savez? Non, je vous en parlerai après. Vous avez tous entendu parler de Yonggi Cho? Vous savez qui est Yonggi Cho? Si je dis Yonggi Cho, ça vous dit quelque chose? C'est un grand pasteur, si on peut dire grand pasteur. C'est un grand pasteur, c'est un Coréen. Il a bâti la plus grande église évangélique de Corée, 800 000 personnes dans son assemblée. 1 million en réalité, si on compte aussi les sympathisants. Et pourtant, cet homme-là, a été dénoncé par un collectif d'anciens de son assemblée. Ils ont dénoncé les malversations financières de Yonggi Cho parce qu'il s'était livré à des malversations financières. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les, quelle que soit la personne. Nous devons, ça demande du courage, vous savez ça? Parce que ce n'est pas simple. C'est lui le leader fondateur, et ils ont eu le courage de dénoncer, de lui dire, non, ce que tu fais n'est pas bien. Il faut que tu arrêtes. Et il a continué. Ils lui ont dit, il faut que tu arrêtes. Et il a continué. Et ils l'ont dénoncé à la justice de son pays. Nous sommes des enfants de lumière. Marchons dans la lumière et dans la vérité. Quelle autre raison nous avons pour désobéir à Dieu? Est-ce que c'est la peur d'être marginalisé, mis à l'écart, d'être trouvé ridicule? Vous savez, je vois qu'il y a ici de jeunes adultes qui, pour la plupart, travaillent. Très souvent, ou bien pas très souvent, parfois au bureau ou là où on travaille, dans l'entreprise où on est, il arrive que nos collègues, n'est-ce pas, parlent d'une manière un peu, je trouve pas le mot exact, mais d'une manière désagréable, irrespectueuse de la part du Seigneur. Et nous, pendant que les autres rigolent, parfois, on mélange notre sourire crispé à leur sourire. Oui, parce qu'on n'ose pas dire, mais non, je suis pas d'accord avec ça. Voilà ce que je crois. On n'ose pas affirmer ce que nous sommes. Oh, parce qu'on risque d'être marginalisé. On risque d'être mal vu. Oh, toi, au 21e siècle, tu crois encore à des choses comme celle-là? La peur d'être ridicule. C'est aussi une raison. Et lorsque nous nous taisons et nous désobéissons à Dieu. Voici ce qu'il dit dans Marc 8, verset 38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Vous savez quoi? Quand je mets tout ça en balance, je préfère être ridicule aux yeux des hommes plutôt que d'être ridicule ce jour-là quand le Seigneur Jésus dira « J'ai honte de lui, je le connais pas. » Ça va être dur, hein? Ah. Mais c'est vrai. Qu'est-ce que ça fait? Vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Quand vous marchez fidèlement avec Dieu dans votre lieu de travail, vos collègues se moquent parfois de vous, mais en réalité, ils vous respectent et ils vous admirent. Je vais vous raconter une petite anecdote. Ça me concerne. Je suis enseignant. J'enseigne en lycée. Alors, je suis arrivé dans un nouvel établissement. J'enseigne la physique et les mathématiques. J'étais là, je faisais mes affaires, je faisais mes cours, je préparais mes expériences et tout. Mais je ne savais pas. Ce que je ne savais pas, c'est que mes collègues m'observaient. Ils se demandaient, mais est-ce que c'est un extraterrestre, lui? Il parle pas comme nous, il fait pas comme nous. Je leur avais même pas encore parlé du Seigneur. Et puis, dans une discussion, je leur ai dit que j'étais chrétien. J'étais pas pasteur à l'époque, hein. Je suis chrétien. Et puis, je vais à l'église le dimanche. Pour moi, c'est incontournable. Si je ne suis pas malade. Ils me regardaient. Ils regardaient comment je faisais. Et je ne savais pas qu'ils étaient admiratifs. Alors un jour, c'était la fête de fin d'année, on était assis là sur la table et on a servi un peu de vin à table. J'ai pris un verre de vin à table. Mes collègues étaient stupéfaits. Ils étaient stupéfaits, pourquoi? Parce qu'ils me disent, nous n'aurions jamais imaginé que tu boives un vin. que tu boives du vin. Parce que pour nous, tu es saint. Les personnes qui travaillent avec nous, nous regardent et nous respectent. Et au fond de leur cœur, nous admirent. Même s'ils ne nous le disent pas ouvertement, c'est ça la vérité. Mais ils ne nous le diront jamais ouvertement parce qu'il faut qu'ils gardent une apparence. Mais au fond d'eux-mêmes, ils sont malheureux et voudraient un peu être comme nous. Alors n'hésitons pas. Ne nous arrêtons pas à ce qui est en surface parce que ce n'est que du vernis. Ce que nous sommes a largement plus de valeur que ce qu'ils sont, eux, et ce qu'ils ont. Et ils le savent, même s'ils ne veulent pas le reconnaître ouvertement. Alors n'ayons pas honte de ce que nous sommes, là où nous sommes, là où le Seigneur nous a placés. Confessons-le. Soyons fiers d'être des fils et des filles du Dieu Très-Haut. Alléluia! Donc voilà, la crainte d'être marginalisé, la peur d'être ridiculisé. La Bible dit, Proverbe 29, verset 25, « c'est un piège que de trembler devant les hommes. Mais se confier en l'Éternel procure la sécurité. » Alléluia! Pourquoi est-ce que nous sommes désobéissants à Dieu? Est-ce à cause de nos intérêts personnels? Ou à cause des intérêts de ceux qui nous sont chers? Ça peut être nos enfants, vous savez. À cause des intérêts de nos enfants, il peut nous arriver d'être désobéissants à Dieu. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Yang Gisho. Vous croyez que Yang Gisho n'a pas détourné de l'argent pour lui? Il a détourné de l'argent à cause de son fils aîné, qui avait fait de mauvaises affaires. Et pour renflouer son fils aîné, il a piqué dans la caisse pour renflouer son fils. C'était pas pour lui. Parfois, pour des êtres qui nous sont chers, on se met en porte-à-faux vis-à-vis de la parole de Dieu. Quelles sont les raisons de vos désobéissances? On pourrait aligner, n'est-ce pas, faire une liste encore plus longue que celle-là. Mais quelles que soient les raisons, elles ne tiennent pas devant Dieu. Parce que souvent ces raisons sont le résultat de notre inquiétude. Et le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez donc point, Matthieu 6, 31 à 33, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Oh, frère, votre Dieu, le Père Céleste, sait. Si je sais que mon Dieu sait de quoi j'ai besoin, alors je ne devrais plus m'inquiéter. Mais parfois, mon manque de foi fait que, même quand je sais que mon Dieu sait, j'ai envie de l'aider un peu. Mais nous ne pouvons pas aider Dieu. Parce que, comme je l'ai dit, le meilleur plan, c'est celui qu'il a, lui. Le titre de ce message, c'est quoi? C'est « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». Alors, quelle est la place des sacrifices dans cette histoire? Quelle est la place des sacrifices? Quelle est la place de nos offrandes? Je voudrais vous dire une chose. Je veux dire merci à notre frère qui a fait la louange tout à l'heure. Parce que c'est important. C'est important d'être impliqué dans la vie de l'Église. C'est important de servir le Seigneur. C'est important de donner du temps, de son énergie, de son argent pour l'œuvre du Seigneur. C'est quelque chose d'important. Et quand on le fait, ça nous coûte quelque part. Il y a des sacrifices à cela. Ça nous coûte de le faire. Quand ma sœur va, elle a dit qu'elle était encore allée où, je sais plus, va au Pérou ou au Sénégal, pour l'œuvre du Seigneur, entre-temps, sa fille reste seule, son mari reste seul. Et voilà, ça coûte ça. La famille en souffre un tout petit peu. On prend un coup, ça en coûte tout ça. Mais ça vaut la peine, voyez-vous. Et quand nous le faisons, nous sommes bénis. Je suis béni quand je le fais. Je suis béni, mais parce que je suis béni, l'Église aussi est bénie, parce que j'appartiens à une Église. L'Église, de manière générale, celle des enfants de Dieu, est aussi bénie. Mais je vais vous dire une chose qui ne va pas vous plaire. Je vais vous dire une chose qui ne va pas vous plaire. Je vais vous dire une chose qui ne va pas vous plaire. Vous savez quoi? Dieu n'en a que faire de nos sacrifices et de nos offrandes. Il n'en fait aucun cas s'ils ne sont pas le résultat ou la conséquence d'une totale obéissance à sa parole. Dieu ne fait aucun cas de nos sacrifices, de nos offrandes, de tout ce que nous pouvons donner. Si cela n'est pas fait dans le cadre d'une obéissance totale à sa parole. Vous le saviez ça? Lorsque Samuel répond à Saül dans le texte que nous avons lu au verset 22, il lui dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Vous connaissez ce passage de 1 Corinthiens 13, les trois premiers versets? Voici ce qu'il nous dit, Paul, dans cette histoire. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Tous ces sacrifices pour rien. Et pourquoi? Parce qu'il me manque l'essentiel. Il me manque l'essentiel, l'obéissance à la parole de Dieu, l'amour de la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. L'obéissance à Dieu est la manifestation de notre amour pour Dieu, est la manifestation de notre soumission à Dieu. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, je suis presque à la fin. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. On aurait pu traduire, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui travaillez au mépris et en violation de la loi de Dieu. C'est une traduction possible de ce passage-là aussi. Voyez-vous, ils auront fait de grandes choses. Ah, vous savez, si aujourd'hui on a un super, c'est pas moi, un prédicateur qui arrive là, on vous dit, il fait des miracles, il guérit les malades, vous allez voir la moitié de la ville qui va courir. N'est-ce pas? Pour aller l'écouter. Quel homme de Dieu, dirons-nous? Et pourtant, s'il s'agit de cet homme dont Jésus-Christ parle ici, il dira, je ne vous ai jamais connu. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas travaillé dans l'obéissance à Dieu. Ce n'est pas ce que nous faisons qui importe. Ce n'est pas ce que nous faisons qui importe. Ce qui importe, c'est la manière dont nous faisons ce que nous faisons. Ce qui importe, c'est que ce que nous faisons soit fait selon Dieu. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire. Attention. Nous devons absolument faire parce que Dieu a préparé de bonnes œuvres pour que nous les accomplissions. D'accord? Mais les œuvres, nous devons les accomplir selon Dieu. Et ce passage me dit que le salut est individuel. Ce ne sont pas ceux qui me disent, les nombreux, mais celui qui fait. Dieu ne viendra pas le jour du jugement et dire « Église de Saint-Maur, sauvée !» Non, il dira « Anne-Marie de Saint-Maur, sauvée !» Il y a l'autre personne, Clément de Saint-Maur, sauvée, ainsi de suite. Il ne prendra pas la masse. C'est chacun individuellement qui répondra devant Dieu. Qu'est-ce qui motive mon action? Est-ce que ce que je fais est la conséquence, est le résultat d'un acte d'obéissance à Dieu? Alors, je voudrais te challenger cet après-midi. Où en es-tu? À titre personnel, à titre individuel, sans te dire compte de ton voisin ou de ta voisine. Où en es-tu sur le chemin de l'obéissance à Dieu? Qu'est-ce qui motive tes actions dans la maison de Dieu, dans la vie? Les plans que tu peux avoir, les choix de ta vie, sont-ils en conformité avec ce que tu sais de la parole de Dieu? Parce que si ce n'est pas le cas, la Bible dit que c'est de la rébellion contre Dieu. Et la rébellion est aussi coupable que la divination ou la sorcellerie. Si nous ne marchons pas dans l'obéissance, notre louange et notre adoration n'ont pas de valeur devant Dieu. Nous devons en être conscients. Ne faisons pas les choses par habitude, mais interrogeons-nous sur la motivation, sur le pourquoi, sur le moteur de nos actions. Est-ce que c'est l'amour de Dieu? Est-ce que c'est le désir de lui obéir et de faire ce qu'il attend de nous de manière fidèle? Je vais finir avec cette petite histoire. Il y a deux personnes qui ont péché devant Dieu. L'une a été pardonnée et l'autre pas. Vous les connaissez tous. Le premier, c'est Saül. Vous voyez, Saül, Dieu lui a dit, puisque tu as désobéi, Dieu t'a rejeté comme roi. Il y a un autre roi qui a fait pire que Saül. Il a fait, en termes de péché du point de vue de l'homme, il a fait pire que Saül. Vous savez quoi? Il a fait tuer un de ses meilleurs amis. Il lui a piqué sa femme. Il lui a fait d'ailleurs un enfant. Et il s'est tenu peinard, ni vu ni connu, tu parles. On ne peut pas se tenir peinard devant Dieu. Nathan, le prophète, est venu, lui a dit, David, ce que tu as fait là, Dieu l'a vu. Parce que cette personne, c'est le roi David. Dieu l'a vu ce que tu as fait là. Et vous savez quoi? Quand David a pris conscience de son péché, il n'a pas dit, Nathan, pardonne-moi. Parce que ce que Saül a fait, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Samuel, Samuel, j'ai péché contre Dieu, mais pardonne-moi mon péché. Mais non, c'est pas Samuel qui a le pouvoir de pardonner le péché. C'est Dieu. David a dit, j'ai péché contre Dieu. Et David s'est humilié sous la main de Dieu. Il a pris le sac, il s'est assis dans la cendre, il a pleuré, il a jeûné devant Dieu. Et il a demandé pardon à Dieu. Et vous savez quoi? Dieu lui a pardonné. Dieu lui a pardonné. Dieu nous pardonne. Quelle que soit l'horreur de nos péchés aux yeux des hommes, le pire des criminels que nous pouvions voir, s'il se repent et s'il demande pardon à Dieu, d'un cœur sincère, Dieu lui pardonne. Et ce soir, si dans ton cœur, il y a des choix qui ne sont pas selon Dieu et dont tu as conscience qu'ils ne sont pas selon Dieu, oh, viens au pied de la croix. et reconnaît que ce que j'ai fait ou ce que je projette de faire n'est pas selon Dieu et demande simplement à Dieu de te pardonner et de purifier ton cœur, de te donner de meilleurs sentiments, de t'aider à marcher dans l'obéissance. Parce que nous ne pouvons pas marcher dans l'obéissance par nos propres forces, vous savez. Il n'y a que le Saint-Esprit qui nous donne la force et le courage de le faire. Il n'y a que le Saint-Esprit qui nous donne l'audace de le faire. Et si nous confessons nos péchés, le Seigneur nous dit, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, de tout mal. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout péché. Je vous invite à incliner vos têtes et à faire un temps de silence devant Dieu, lui demandant, Seigneur, où est-ce que j'en suis? Et si, en conscience, l'Esprit te convainc de quelque chose qui n'est pas droit dans ta vie, dis-le au Seigneur, dis-le lui et demande-lui pardon afin que cette communion-là soit rétablie avec lui. Parce que le péché brise la communion avec Dieu. Vous savez, Saül s'était installé dans une routine, mais il n'avait plus de communion avec Dieu. Si nous vivons dans le péché, si nous laissons le péché entraver notre marche, nous allons demeurer dans une routine sans réelle communion avec Dieu. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que ta parole est la vérité. Merci parce que ta parole est la manifestation de ton amour pour nous, Seigneur. Merci parce que ta parole nous éclaire, Seigneur. Merci Père Tout-Puissant parce que tu prévois toujours un chemin pour tes enfants. Tu prévois toujours un chemin, Seigneur, qui nous permet de nous rattacher à toi, de demeurer unis à toi, Seigneur Dieu. Merci pour le sang de la croix, pour le sang de Jésus-Christ qui a coulé. Merci Seigneur Dieu parce que par lui tu nous purifies. Merci Seigneur pour ce privilège que nous avons de nous approcher du trône de la grâce. Seigneur, de confesser nos fautes, nos manquements, nos péchés. Merci parce que tu nous donnes la capacité, le pouvoir, Seigneur, de nous détourner de nos péchés. Merci parce que tu nous pardonnes. Oh Seigneur, tu es bon envers nous. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir comprendre et comme toi, Seigneur, avoir horreur du péché dans nos vies. Seigneur, donne-nous de pouvoir vivre, Seigneur, de manière à ne pas laisser une place au péché dans nos cœurs. Seigneur, viens à notre aide. Parce que par nous-mêmes, tu sais, nous ne pouvons pas. Viens à notre secours, Seigneur. Viens au secours de notre petitesse. Viens au secours de nos faiblesses. Et rends-nous forts en toi, Seigneur. Aide-nous à garder les yeux fixés sur toi, Père éternel, pour que nous ne soyons pas effrayés par le monde. Sois béni, notre Dieu, notre Roi, dans le puissant nom de Jésus. Amen.